Rémi Chauvin est l'invité de Marc Menant.
Oui, Jackie, je redonne le titre de vos ouvrages. La biologie de l'esprit, c'est un ouvrage passionnant parce que ça permet d'aller au-delà des simples études, d'avoir une extrapolation sur la psychologie. Donc, c'est aux éditions L'Esprit et la Matière, édition du Rocher. À l'écoute de l'autre là, François Brune était votre associé. C'est les expériences que vous avez menées sur ces messages qui nous viendraient d'ailleurs. Et puis, le dernier ouvrage aux éditions du Rocher, c'est L'Énigme des abeilles. Alors, il y a deux secondes, je disais, Sheldon Drake qui a mené des travaux sur les capacités de certains animaux, chiens, chats par exemple, à retrouver un maître dans un lieu où ils ne sont pas allés.
Oui, parfaitement. C'est difficile à étudier. Parce que un ces chiens qui est devenu célèbre a fait 400 km pour retrouver son maître. Alors, on a fini par comprendre ce qui se passait. D'abord, il y a un point précis. On a dit, mais il s'est trompé. Le maître a cru que c'était son chien. Vous croyez qu'un maître ne peut pas reconnaître son chien? Les imbécilités qu'on raconte, vous vous rendez compte?
Quand on ne veut pas croire.
Quand on ne veut pas croire, on dit n'importe quelle idée. Voilà, Mais depuis l'histoire des pigeons voyageurs, on y comprend quelque chose. Parce que le chien a un organe olfactif énormément supérieur au nôtre. Si on déployait la muqueuse olfactive de l'homme et couvrait la surface d'un doigt, la muqueuse olfactive du chien dépasserait la surface de la main. C'est-à-dire que ce qu'ils sentent n'a rien de comparable à ce que nous ressentons.
Alors, de là à imaginer qu'ils puissent percevoir une odeur à 400 km,
Non, c'est pas ça qu'ils ont perçu. Mais lorsqu'on transporte le pigeon dans une cage où il ne voit pas le paysage, parce qu'attention, j'ai une bonne acuité visuelle, mais où il peut le sentir, à ce moment-là, il est capable de retrouver son gîte à quelques centaines de kilomètres près. Et le chien aussi, semble-t-il, alors on ne travaille pas aussi facilement sur les chiens qu'avec les pigeons, mais il semble bien que le chien reconnaît la trace odorante du véhicule qu'il a transporté à 400 km. Et qu'il s'en
souvient. Certaines expériences ont été faites où, par exemple, le chien est à Marseille, le maître s'en va à Paris, et le chien n'est jamais venu à Paris. Et de lui-même, il va venir trouver, débusquer le masque.
Alors, je dirais que ça m'étonne. Je dirais que ça m'étonne parce que j'ai entendu parler de ces expériences, mais pas tout à fait comme ça. N'est-ce pas? Parce que vous savez, il faut être très, très précis. Par exemple, dans quelles conditions le maître est à Paris et le chien à Marseille? Il a bien dû, à un certain moment, être transporté de Paris à Marseille ou inversement.
Apparemment, dans ce que j'avais lu, moi, c'est, j'ai pris Marseille comme ça au hasard. Simplement, le chien est né à Marseille, a vécu avec le maître à Marseille. Le maître, venant vivre à Paris, mais dans une HLM ou dans un immeuble, alors que là-bas, il était à la campagne, part du principe que le chien sera mieux en restant à Marseille dans un espace libre, et donc le laisse sur place. Et le chien, lui, préfère retrouver son maître, quelles que soient les conditions de vie. Et il va s'orienter tout seul.
C'est difficile à croire, mais dans le cas du pigeon voyageur, il semble que l'acuité olfactive soit extraordinaire. Parce que si l'homme est allé, supposition, si par hasard l'homme est allé en voiture, comme on fait maintenant, depuis Marseille jusqu'à Paris, il a pu laisser une trace odorante.
Mais cette trace, elle est emportée par les différents courants d'air, etc.
J'avais dans le temps une chercheuse qui voulait faire une expérience sur la psychologie comparée des gendarmes et des chiens policiers, des maîtres chiens, comme on dit. L'une des deux psychologies est très intéressante, je ne vous dis pas laquelle, bien sûr. Et les maîtres chiens, qui sont très fiers de leur capacité, de la capacité de leur chien, mais enfin, c'est pareil, ils ont raconté de drôles de choses. Il y avait un chien phénomène, qui, un mois après un crime, a pu suivre la trace, à Paris, a pu suivre la trace d'un présumé coupable depuis je ne sais plus quel coin à Paris, jusque dans le métro, un mois après, alors que la trace odorante était brouillée par des millions de traces odorantes.
Ah oui,
c'est... Et ils m'ont dit, ce chien-là est phénomène, il découvre n'importe quoi. Alors, par la suite, on s'est aperçu que le type avait effectivement suivi ce chemin-là. Vous voyez, comme pas mettre en doute la parole des gendarmes, non, ce
serait... D'abord, j'en serais capable, hélas. Mais de deux, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être une autre explication, que là, on retient ces informations olfactives, mais peut-être qu'à nouveau, il faut faire appel à la télépathie, et que le chien, c'est une autre forme de message qu'il perçoit.
C'est-à-dire que, connaissant l'acuité visuelle incroyable, vous savez que ces chiens sont capables de discriminer de deux cannes tenues par deux jumeaux, lequel des deux jumeaux a tenu la canne, alors que les deux jumeaux vrais, c'est le même maître en principe. Pour le chien, c'est pas le même maître, il y a une différence. parce qu'ils ont peut-être dans leur histoire des particularités qui modifient leur odeur, mais il sait, il va trouver à qui appartenait la canne. Alors quand ça va si loin que ça, vous comprenez, c'est incroyable, cette histoire.
C'est vrai, mais bon, moi ce qui m'étonne, c'est qu'un mois après, on puisse encore trouver une trace olfactive dans des lieux aussi brassés que le métro parisien.
Ben oui, oui, alors, ça c'est sûr. Parce que, oui, mais d'un autre côté, il y a des papillons qui font des trucs, des choses comme ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils retrouvent des traces odorantes des années après. Il y a par exemple des papillons migrateurs, dont j'ai oublié le nom, peu importe, c'est un latin qui ne vous dira rien d'ailleurs, qui migrent depuis le nord de l'Amérique jusqu'au sud à une certaine distance, quelques centaines de kilomètres. Et ils se reposent au cours de la promenade, si j'ose dire,
oui,
sur quelques arbres toujours les mêmes. On dirait, bon, c'est un arbre de certaines espèces. Non, c'est pas un arbre de différentes espèces, mais c'est le même arbre qui, à un certain moment, est couvert de papillons, si bien que les Indiens croyaient qu'il était habité par un Manitou. En réalité, il avait laissé très certainement une odeur qui avait tenu une année parmi les pluies tropicales et dans le climat qu'on peut imaginer. Alors, vous savez, quand on voit ça, par l'odeur de l'essaim chez les abeilles, quand un essaim s'est accroché quelque part, ben, tous les apiculteurs savent qu'il faut surveiller l'endroit parce que d'autres essaims viennent aussi accrocher 6 mois plus tard, 1 an plus tard.
Alors, ça fait partie des questions qui nous sont arrivées au standard tout à l'heure. J'ai pas rebondi dessus parce qu'on n'était pas en train d'évoquer les abeilles. Et c'est, j'ai oublié le nom, mais, l'accumulation d'un essaim dans un jardin qui atteint maintenant plusieurs mètres de haut. Et apparemment, donc, celui qui nous faisait part de ce témoignage se demandait comment se débarrasser de cet essaim qui ne cessait de grossir.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas très bien compris. Mais
apparemment, donc, il y avait quelques abeilles et ça ne cesse de grossir. Et cet essaim, aujourd'hui, dans ce jardin...
Enfin, voyons quoi. Ça atteindra une tonne, bien sûr. Il faudrait prévenir les gendarmes. Mais un essaim se groupe assez progressivement parfois. Mm-hmm. Mais quand il atteindra 2 ou 3 kilos, ça va finir de grossir. Alors, c'est un essaim phénomène.
Et comment se débarrasser une fois qu'il est là, cet essaim ?
Eh bien, il faut être apiculteur. C'est la chose du monde la plus simple. Si vous êtes apiculteur, vous le mettez dans une ruche. Mais alors là, vraiment, qu'il ne s'y risque pas s'il ne sait pas comment manier les abeilles. Parce qu'il faut, employer la fumée, suivant une technique qui remonte à la préhistoire, et puis préparer un sac dans lequel vous trouvez les seins. Et ne vous trompez pas, parce que si vous faites tomber le sac et vous dans le sac, vous allez voir ce qui va arriver, n'est-ce pas? Et ensuite, vous versez les seins dans une ruche avec quelques rayons de cire, et ça va marcher. Mais que ce brave homme ne sait surtout pas de faire ça s'il ne connaît rien aux abeilles.
Alors, dans votre livre, L'énigme des abeilles, et puis vous faites également, dans nombre de vos ouvrages, référence à ces drôles de petites bêtes, et là encore, c'est plus que bizarre, ça sera peut-être la dernière énigme de la matinée, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes, c'est la capacité qu'ont les essaims à se scinder à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand on atteint un certain nombre d'individus, il y a des abeilles qui partent en éclairage pour préparer la séparation du groupe.
Ah oui, tout à fait, c'est tout à fait extraordinaire ça. C'est les expériences de Lindauer, qui avait fait ça sur une île déserte, où il pouvait faire avec les abeilles tout ce qu'il voulait, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à butiner. Et les abeilles, à un certain moment, vont essaimer, et les saints, les abeilles vont aller chercher un gîte pour les saints, avant qu'ils n'essaiment. Et la cavité qu'ils vont trouver va être en rapport avec la grosseur de l'essaim. Une petite cavité, si c'est un petit essaim, une grosse cavité, c'est un gros essaim, avant que l'essaim ne parte. Et ensuite, en employant la danse, ils vont indiquer aux abeilles qui se font en essaim quelle est la cavité qui leur convient, les mener là-bas.
Enfin, c'est invraisemblable, parce que ça voudrait dire...
Mais c'est pas moi qui faut engueuler le père. engueuler Dieu le Père.
Ah tiens, à ce propos, Dieu le Père, c'est Richard qui nous appelle du Tréport. Il dit, est-ce que Monsieur Chauvin croit en Dieu ?
Oui, pourquoi ?
Je sais pas, c'est parce qu'à travers tous les propos que vous tenez, c'était question...
Mais oui, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit, c'est une question très intéressante, mais il s'agit que devant la nature, actuellement, la science est plongée dans un mystère qui n'est pas insoluble, mais qui n'est pas encore résolu. Le plus grand mystère qui nous entoure, c'est la nature. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous comme ça ?
Éternelle question, hein ? Alors, restons 2 secondes sur ces abeilles. Ce qui paraît quand même inimaginable, c'est qu'elles soient dans une potentialité presque de réflexion, puisqu'il y a celles qui s'en vont pour tenter de trouver un nid, enfin l'endroit,
un gîte,
qui correspondra à la séparation du nombre d'individus.
Ben écoutez, demandez aux abeilles, moi je ne sais pas comment elles font, hein. C'est un problème qu'on se pose. Comment les éclaireuses, comme on dit, peuvent savoir quelle va être la taille de l'abeille et de l'essaim qui va sortir alors qu'il n'est pas sorti ? Alors peut-être bien qu'en réalité l'expérience a été mal faite, que l'essai était déjà sorti, mais alors l'éclaireuse a quand même apprécié la taille. Ben c'est pas mal pour une abeille apprécier une taille d'un essaim, surtout qu'il n'a pas une forme régulière, vous comprenez, il peut être aplati ou il peut être arrondi.
Et on s'aperçoit aussi que les abeilles, comme les fourmis d'ailleurs, peuvent vivre éventuellement toutes seules, mais que leur comportement se complique et devient plus riche dès lors qu'elles sont plusieurs, c'est cela ?
Ah, alors vous touchez de votre cœur, parce que c'est une de mes dernières notes que j'ai publiées quand j'étais encore l'homme de chance en activité. Les abeilles ne peuvent pas vivre isolément. Et elles peuvent vivre isolément parce qu'elles agitent trop. Et la vie en groupe, un effet calmant, ça tient à une certaine hormone que j'ai eu le privilège d'isoler. C'est une hormone calmante.
Eh bien, très bien. Nous allons nous calmer dans nos propos. Rémi Chauvin, merci d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie. Je rappelle, La biologie de l'esprit, aux éditions du Rocher. Le dernier, L'énigme des abeilles, toujours aux éditions du Rocher. Et puis, chez Philippe Lebeau, À l'écoute de l'Odola, ouvrage commis avec le père François Brune.